Je vais faire deux avertissements pour commencer. Le premier, c'est que je suis d'une institution officielle et tout ce que je vais dire n'engage que moi-même et pas mon institution. Ça ne veut pas dire non plus que je vais dire des choses contradictoires totalement avec ce que penserait ou ce qu'a dit l'institution. Deuxième avertissement, c'est que je n'utiliserai pas de PowerPoint avec le risque que mon point soit, à la fois pointless et powerless. Rapidement, un certain nombre de points. En fait, j'aurai 10 points très rapidement. On me donne 20 minutes, je vais utiliser à peu près 2 minutes pour chaque point. J'irai assez vite sur les premiers parce que Patrick l'a déjà traité et Jean-Marc aussi à certains égards. Premier point, c'est rôle des banques et marché de capitaux. On a tous été un petit peu éduqués selon l'idée qu'il y avait une finance directe contre une finance intermédiaire. Finance directe et marché, bien sûr, et cette distinction, en fait, est de moins en moins fondée. D'abord, on a beaucoup de mal, par exemple, à calculer ce qu'est un taux d'intermédiation aujourd'hui. On calcule un taux d'intermédiation au sens strict, qui est les crédits distribués par les banques sur l'ensemble des financements des entreprises, par exemple, et on s'aperçoit que ce ratio est à peu près stable depuis 10 ans, aux alentours de 40%. On peut calculer un taux d'intermédiation un petit peu plus large, qui soit les crédits plus les titres détenus par les banques, sur l'ensemble des financements des entreprises. Et dans ce cas-là, on est plus à l'entour de 60-70%. Quand on veut calculer la titrisation, c'est difficile. Si on prend uniquement l'encours des fonds communs de créances publiques et privées sur l'ensemble des crédits, on a un chiffre ridicule pour la France qui est de 2,5. Évidemment, ça ne prend pas en compte les OTC et tous les flux, je dirais, intra-bancaires qui sont très mal mesurés. Donc il y a un petit problème de mesure. Mais ce que je pense qui est important, c'est que cette distinction rôle des banques et marché des capitaux est moins claire. Et de cette manière, ce qui apparaissait un petit peu comme une répartition des tâches apparaît un petit peu maintenant comme une confusion des genres. Et il y a certainement une première phase d'innovation financière qui a été très marquante, que tout le monde connaît, qui est celle du milieu des années 80. C'est là où sont nés les marchés du commercial paper, marchés ouverts, des billets de trésorerie, etc. On vit certainement depuis 5-10 ans dans une nouvelle phase d'innovation financière qui est beaucoup plus dangereuse parce que, justement, beaucoup plus difficile à cerner et à certains égards beaucoup moins lisible. Un point sur la titrisation est-elle un facteur de croissance économique? Je dirais attendant a priori oui. En même temps, on a vécu de longues périodes de très forte croissance économique sans titrisation, donc d'une certaine manière, je crois qu'il faudrait faire la preuve de ça. On voit bien que derrière la titrisation, il y a aussi la recherche de rendement des banques par rapport à leurs fonds propres est extrêmement importante. Donc je pense qu'il faut avoir l'ensemble du sujet en tête. Deuxième point, qu'est devenu le métier de banquier? Ça a été un petit peu traité par Patrick. Titrisation, c'est l'essor du modèle. Alors en anglais, c'est originate and distribute, c'est-à-dire en réalité, c'est un faux ami. En réalité, il s'agit du système selon lequel les banques prêtent et ensuite se défaussent du crédit. Par rapport à l'ancien paradigme où les banques prêtaient et ensuite conservaient le risque, c'est-à-dire le crédit, jusqu'à l'échéance. Et donc, tout ça évidemment combiné avec des effets de levier très forts, les actifs sont transférés à des entités hors bilan, ce qu'on appelle les SIV, les Special Investment Vehicles en anglais, qui se refinancent elles-mêmes parfois de façon périlleuse sur le marché à court terme, mais qui se défaussent eux-mêmes de ces risques, c'est-à-dire les risques initiaux, sur des investisseurs qui parfois ignorent ce sur quoi ils ont investi leur argent. On a vu par exemple des investisseurs récemment en France, en Europe et même aux États-Unis qui achetaient de façon très naïve des parts d'OPCVM monétaire qui étaient en réalité beaucoup plus risquées que ce qu'ils pensaient. Donc il y a une espèce d'extrapolation de la transformation et on s'éloigne évidemment de la fonction originelle des banques qui est d'analyser le risque et de le porter à échéance. Donc il y a un vrai problème qui est qu'on rentre dans une question qui est celle d'imperfection croissante du marché du crédit liée à la moindre qualité des risques. Pourquoi? Parce que moins analysés de façon moins précise et ces risques ensuite globalement tendent à croître. Troisième point précisément, où sont les risques? On a eu tendance dans ce système à penser que les risques avaient disparu. En fait, le risque ne disparaît jamais, il est transféré, il est dispersé, il est dilué, Il est parfois caché, mais il ne disparaît jamais. D'autant plus que la prolifération d'acteurs dans la chaîne de financement que j'ai évoquée tout à l'heure conduit à une opacité. Opacité à la fois sur la nature des produits, crédit structuré, financement structuré, également sur finalement quel est l'investisseur ou quel est la chaîne, quel est l'agent qui détient finalement ou qui porte le risque. Et ça, c'est un problème évidemment pour les investisseurs, c'est aussi un problème pour les régulateurs et les supervisions. Et donc, ce système est d'autant plus dangereux qu'il conduit à une combinaison assez dangereuse de plusieurs types de risques, risque de crédit, risque de contrepartie et risque de liquidité, j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, où est la liquidité? Patrick a déjà évoqué le sujet. Ce qui frappe quand on regarde tout ce qui a été écrit sur la liquidité, y compris dans le journal des Échos, et pas seulement, c'est qu'il y a d'innombrables définitions de la liquidité. Et j'en citerai finalement trois qui me paraissent essentielles. Liquidité au sens des actifs individuels ou bilan des agents, qui est plus ou moins facile de les vendre. Sans perte. Liquidité de marché, c'est-à-dire la possibilité de vendre ou d'acheter sur un marché sans impacter trop gravement les prix sur ce marché. Et puis la liquidité macroéconomique, c'est-à-dire quel est le niveau d'actifs liquides dans l'économie mondiale. Et Patrick a évoqué effectivement le fait que cette mesure macroéconomique de la liquidité au cours des 10 dernières années était assez élevée. Alors, ce qui apparaît aussi, c'est que dans la configuration d'une spirale, une crise, squeeze de liquidité, deleveraging et chute des prix, il y a ce qu'on appelle une implosion de marché. Donc la liquidité a l'air de s'évaporer parce que le marché n'existe plus. Au passage, c'est un petit peu un point que je reviendrai, sur lequel je reviendrai tout à l'heure. C'est-à-dire dans le cadre de la comptabilité mark-to-market, l'implosion du marché fait qu'il devient parfaitement impossible de valoriser. Market sans market, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Alors, un petit point quand même qu'il faut noter, c'est que quand on regarde le marché interbancaire, le besoin de liquidité sur le marché interbancaire, globalement, n'a pas véritablement changé. Ce qui a changé, c'est la détention des différents établissements bancaires, c'est-à-dire les acteurs de ce marché interbancaire, qui tout simplement n'ont plus voulu se prêter et ont attendu finalement que les banques centrales leur accordent la possibilité en réalité de détenir plus de liquidités que ce qui était en réalité leur besoin, dans une optique évidemment de rétention. Cinquième point, valorisation et fair value. J'irai assez vite là-dessus. Il y a un vrai débat à l'heure actuelle sur les questions liées à la définition des standards comptables. Vous savez qu'il y a un organisme qui s'appelle IASB qui définit en particulier pour l'Europe les standards. Il faut savoir que ces standards ne sont pas tout à fait homogènes entre l'Europe et les États-Unis. Et le débat en fait porte sur un certain nombre de points, en particulier sur la recommandation qui est faite d'utiliser davantage ce qu'on appelle la fair value, c'est-à-dire en fait la valeur de marché dans la comptabilisation des opérations et des actifs au bilan. Et ce principe en soi n'est absolument pas contestable, puisqu'il y a bien l'idée d'une meilleure transparence. Le problème, c'est que ça introduit très clairement un danger de volatilité, que lorsque les marchés ont eu des problèmes de valorisation, cette volatilité a été particulièrement forte, a introduit de très nets biais dans la lisibilité des résultats, et au bout du compte, ce qu'on peut dire, un overshooting, c'est-à-dire que la valeur faussement de marché est devenue en fait une valeur de casse qui n'était sans rapport, en tout cas avec des rapports assez lointains, avec la valeur des actifs sous-jacents. Sixième point, liquidité et solvabilité. Ça, c'est un point extrêmement important, parce que jusqu'à présent, on avait en tête, là aussi, qu'il y avait des problèmes de liquidité qui pouvaient se poser, c'est-à-dire qui pouvaient déboucher jusqu'à des problèmes de crunch, mais qu'il y avait aussi des problèmes de solvabilité qui devaient être traités de façon complètement différente. Et en réalité, on s'est vite aperçu que dans plusieurs cas les plus actuels, Norson Rock a été cité. Lorsqu'il y a un problème de liquidité très important, ça peut se traduire assez rapidement dans un problème, par un problème de solvabilité. Donc quand il y a eu une pénurie de liquidité, très rapidement, on s'est aperçu que ça pouvait entraîner également des problèmes de solvabilité, et donc finalement que les capitaux, les fonds propres des établissements n'étaient pas suffisants pour garantir ce risque. Dans le cas de Northern Rock, les risques étaient plutôt de bonne qualité. Donc ce qui a conduit effectivement au bank run, c'est pas du tout le fait que Northern Rock était totalement investi en actifs très mauvais pour cette forme, c'est vraiment le fait que Northern Rock avait fait de la transformation d'échéance qui était extrêmement hasardeuse en ce financement, notamment de façon excessive à court terme. Alors j'en viens maintenant au rôle des banques centrales. Et sur les rôles des banques centrales, je verrai trois points. Premier point concerne le fonctionnement du marché interbancaire. Alors d'abord, est-ce que les banques centrales ont une responsabilité très forte dans la genèse des crises depuis 5-10 ans? Il y a un débat là-dessus, peut-être que dans la salle, on y reviendra tout à l'heure. Je crois que c'est important, c'est de voir que, effectivement, le conservatisme qu'évoquait Patrick dans la façon d'intervenir sur le marché interbancaire a évolué. Et je dirais qu'il a plus évolué dans le sens de la BCE, d'ailleurs, depuis quelques mois, au sens où, par exemple, le nombre de contreparties, la gamme des collatéraux, la gamme des instruments était déjà relativement large dans le cadre de ce que faisait la Banque Centrale Européenne. C'était beaucoup plus étroit au Royaume-Uni et aussi aux États-Unis. On a observé depuis l'été 2007 une espèce de convergence dans les procédures et instruments de politique monétaire, dans le sens précisément d'un élargissement des contreparties, de la gamme des collatéraux et de l'allongement de la durée des prêts. Donc il y a une flexibilité accrue de la gamme des instruments et des procédures, une convergence accrue entre les grandes zones, et ce dont on s'est aperçu, c'est qu'en réalité, il y avait quand même, en dépit des, certains ont dit des tombereaux de liquidités distribués, en réalité, il y avait des tombereaux de liquidités, mais il ne faut pas cumuler uniquement ce qui a été alloué comme liquidité par les banques centrales, une grande partie revenait ensuite dans son bilan, ce qui fait que l'apport net de liquidités, en fait, est beaucoup plus raisonnable que ce qui a été parfois annoncé. Deux points que je voudrais signaler, effectivement, et en particulier aux États-Unis, ça a donné lieu à certaines innovations dans la gestion du marché interbancaire, c'est que dans cette phase de crise, certaines banques peuvent avoir un risque de réputation. C'est ce qu'on appelle le stigma dans le jargon. C'est-à-dire qu'en réalité, elles ne veulent pas, par exemple, avoir accès à certaines facilités de peur que leur réputation en souffre, et on sait très bien que si la réputation souffre dans une période de crise, ça peut conduire assez rapidement à des effets de spirale qui soient assez cataclysmiques. Et donc, on a inventé, les États-Unis en particulier, la Fed a mis en place notamment des taux d'appel d'offres qui permettaient à certains établissements, de façon plus large, à un plus grand nombre d'établissements, d'avoir accès à la liquidité de façon anonyme. La deuxième chose, effectivement, c'est qu'il y a un petit problème de collatéral. Si on élargit considérablement la possibilité de garantie pour les banques d'apporter des garanties du collatéral au refinancement sur le marché interbancaire, ou la banque centrale, parce qu'alors on a un petit peu un risque d'effet de loi de Gresham. C'est-à-dire, effectivement, c'est plutôt les mauvais risques qui vont être apportés au refinancement, et on va garder les meilleurs risques, c'est-à-dire, effectivement, les emprunts d'État ou les titres publics. Enfin, malgré tout, ce point est assez marginal. Point 8, rôle des banques centrales, et donc problème de question posée par la fonction de prêteur en dernier ressort. Il est clair qu'à partir du moment où il y a des anticipations d'actions correctrices par la Banque centrale sur un marché en crise, on crée de toute façon un aléa moral. Et en même temps, on pourrait dire d'une certaine manière, si un accidenté de la route alcoolique est sur le bord de la route, on sait qu'il a mal conduit vraisemblablement, ou qu'il a eu cet accident vraisemblablement parce qu'il était alcoolique, ce n'est pas une raison pour ne pas l'emmener à l'hôpital. En même temps, on sait très bien qu'on crée un aléa moral et qu'on va, d'une certaine manière, peut-être, inciter les alcooliques à conduire toujours de la même façon. Et donc, je pense qu'il faut tirer deux conclusions très fortes de ça. C'est que même si cette action se justifie complètement en temps de crise, il faut à la fois que le code de la route soit sans doute révisé, donc c'est toute la question de la régulation, et il faut que les gendarmes fassent mieux leur boulot, c'est la question de supervision. Alors, où est la frontière maintenant entre la fourniture de liquidité et le bail-out, c'est-à-dire le renflouement? Ça, c'est une question extrêmement difficile pour l'avenir. Parce qu'on voit bien que gérer un problème de liquidité, ça conduit à la fonction de prêteur en dernier ressort. En même temps, la liquidité étant elle-même parfois difficilement différenciable de la solvabilité, les banques centrales peuvent être conduites sensiblement à être actionnaires en dernier ressort. Alors Patrick s'est dit que c'est plutôt une bonne chose, parce qu'il faut chercher à la fois, finalement, c'est la seule institution capable de porter ce risque. Et voilà, en même temps, il faut être conscient que ça revient à une espèce de mutualisation des risques, une espèce de nationalisation, et que du coup, ce n'est pas les banques centrales qui portent le risque, c'est le contribuable, c'est-à-dire vous et moi. Problème de la politique monétaire en situation de stress. J'irai assez rapidement là-dessus. On voit bien qu'il peut y avoir, en situation de stress, de crise financière, un risque de conflit d'objectifs entre la politique monétaire, stabilité des prix pour l'essentiel, et notre part stabilité financière qui est le maintien d'un bon fonctionnement sur le marché financier. Alors, je crois que là, on peut par exemple se référer à ce qu'a dit Fred Mishkin, par exemple, qui est un des responsables de la Fed aux États-Unis, et qui a théorisé dans un très bon papier de la fin 2007 en disant en situation de stress, il faut débrancher d'une certaine manière les objectifs de politique monétaire et s'occuper uniquement de la stabilité financière. Donc il faut éviter à tout prix qu'il y ait des accidents graves qui deviendraient systémiques et qui conduiraient à de graves problèmes pour l'ensemble de l'économie. Et puis, une fois que la crise est réglée, dans ce cas-là, on rebranche la politique monétaire au sens des objectifs, etc. Alors toute la question derrière ça, mais il le reconnaît lui-même, c'est d'avoir la possibilité de façon à peu près symétrique de reconduire ou de remettre des taux d'intérêt directeurs à un système qui soit compatible précisément avec la stabilité monétaire, ou en tout cas les objectifs de politique monétaire. La difficulté évidemment, c'est qu'il n'y a jamais symétrie complète, comme on l'a vu dans l'histoire. La deuxième chose, c'est que cette asymétrie, elle n'est pas seulement liée au bon pouvoir des banques centrales, elle est liée que les crises se déclenchent très vite, mais mettent parfois plusieurs années à se résoudre, donc la difficulté est de discerner quand est-ce qu'on peut arbitrer d'une façon différente entre politique monétaire et stabilité financière, autrement dit comment on peut gérer l'exit stratégie ou les stratégies de sortie des phases exceptionnelles de politique monétaire. Rôle des banques centrales, stabilité monétaire et stabilité financière, finalement je viens de l'évoquer. Je viens à mon dernier point qui est un petit peu sur l'avenir, la banque, la crise et l'économie, quelles sont les perspectives. Le premier problème, c'est faut-il réguler plus ou faut-il réguler mieux? Peut-être un peu les deux. Le problème, c'est qu'il y a une espèce de dilemme, de trade-off entre des contraintes accrues sur le système bancaire et financier, nécessairement international. C'est un marché international et les arbitrages réglementaires dans ce type de marché. C'est-à-dire qu'on sait très bien que si on veut introduire davantage de contraintes, ou davantage de régulation, une régulation plus contraignante, il faut associer l'ensemble des décideurs et l'ensemble des acteurs. Et c'est beaucoup plus difficile. C'est vraiment quelque chose qui est extrêmement difficile. Il y a eu un premier essai qui est, je pense, qu'il faut noter, qui est celui du Forum de stabilité financière en particulier, qui était dérivé du G7, et qui a sorti... G7 a sorti un communiqué lors des dernières réunions de printemps du FMI qui propose un certain nombre de pistes en matière de davantage de transparence, mieux connaître les produits complexes, renforcer l'efficacité de la supervision, renforcer la supervision et le contrôle en particulier de toutes les entités hors bilan. Et je crois que tout ça va dans le bon sens, mais il faut être conscient que c'est un processus qui prendra du temps parce qu'il y a des intérêts contradictoires et qu'on est à la frontière entre les intérêts publics et les intérêts privés. faut-il anticiper enfin la capital crunch? Pour le moment, on ne le voit pas. En tout cas, on ne le voit pas en Europe. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a à la fois des conditions de crédit un petit peu plus restrictives, notamment dans la zone euro en France, certainement moins restrictives qu'aux États-Unis. Ce qu'on voit aussi, c'est que la demande elle-même est moins forte, mais on est bien aussi sur le début du versant descendant d'une bulle immobilière. Donc, d'une certaine manière, ce qui décélère le plus actuellement, ce sont les crédits immobiliers. Mais pour le moment, on ne voit pas de credit crunch au sens de restrictions massives de l'offre des banques qui pourraient générer une crise grave de l'économie. Enfin, je reviens pour finir au point que j'évoquais tout à l'heure, qui est de dire finalement la banque dans l'avenir, et à long terme, très long terme, jusqu'à présent, la banque a été considérée souvent dans l'opinion publique comme quelque chose qui était une espèce de parasite de l'économie, pour certains, à tort sans doute. Et parfois, en revanche, comme des bienfaiteurs de l'économie, parce que sans aide, rien ne peut se faire, et l'économie a besoin de financement, et les crédits, c'est le sang de l'activité économique. Et je crois quand même que cette crise financière, bancaire, qu'on a vécue, et qui n'est pas peut-être complètement terminée, contrairement à ce qu'a dit Patrick, elle aura au moins l'avantage de remettre en cause le rôle des banques dans l'économie, à la fois du point de vue du modèle économique et également peut-être en termes de répartition du coût de l'intermédiation financière et du rôle de marché. Merci.